VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui au sommaire. En République démocratique du Congo, tension à Lubumbashi où l'opposant Félix Tshisekedi était attendu aujourd'hui. Des dizaines de ses militants ont été dispersés à l'aéroport. Deux leaders rebelles des forces populaires du Burundi arrêtés en Tanzanie ce week-end. Première visite en Afrique de l'ambassadrice américaine de l'ONU.
Le président Trump a bien reconnu qu'il y a des crises et Madame Haley connaît bien l'Afrique déjà parce que depuis son arrivée à l'ONU, elle a traité beaucoup de problèmes africains. Donc je crois que c'est une très bonne chose.
Analyse à suivre dans la partie magazine et puis tournée du secrétaire américain à la défense en Asie. Le dossier du nucléaire nord-coréen sera au centre de sa visite. N'arrêtez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. L'opposition togolaise appelle ce lundi à de nouvelles manifestations contre le régime du président fort Gnassingbé le mois prochain. La journée du lundi était calme à Lomé après deux jours d'échauffourée mercredi et jeudi dans le quartier historique de l'opposition B. Les forces de sécurité restent toutefois très présentes dans les villes de Sokodé dans le centre et Bafilo dans le nord après une nouvelle arrestation hier d'un représentant religieux proche de l'opposition. La Côte d'Ivoire est à 3 ans de la prochaine élection présidentielle, mais une ONG panafricaine prend les devants. La plateforme d'éveil électoral des femmes des jeunes, une ONG panafricaine, a publié ce lundi à Abidjan un guide des bonnes pratiques électorales en Côte d'Ivoire afin de préserver le pays d'une autre crise post-électorale après celle qui a fait 3000 morts en 2011. Ce rapport, financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, vise à prévenir les conflits électoraux à travers l'organisation d'un scrutin crédible et accepté de tous, selon Salimata Porke, présidente de cette organisation. Au Nigeria, 3 femmes kamikazes se sont fait exploser hier à Maiduguri, capitale de l'état du Borno, faisant 14 morts et 18 blessés. Selon Ahmed Satomi de l'agence de gestion des urgences, 14 personnes ont été tuées, 18 blessés dans le triple attentat suicide. L'état du Borno, épicentre des violences entre l'armée et Boko Haram, reste en grande partie inaccessible, même si le groupe djihadiste ne contrôle plus de grande partie du territoire comme ce fut le cas en 2015. En République démocratique du Congo, des militants d'opposition venus accueillir Félix Tshisekedi ont été dispersés à l'aéroport de Lubumbashi. Le point sur place avec Narval Mabila.
C'est sur les coups de 13h30 que Félix Tshisekedi est arrivé à Lubumbashi par l'aéroport international de Lalouano. C'est un nombre restreint qui l'accueille. Pas de passage. Les forces de sécurité ont placé un checkpoint à la bifurcation entre la route de l'aéroport et la route Likassi. La police est déployée tout le long de la route qui mène vers le centre-ville. Pas d'attroupement. Certaines arrestations sont opérées. Quelques grenades lacrymogènes sont lancées envers les militants qui ont bravé l'interdit à l'arrivée du cortège de Félix Tshisekedi qui était sous escorte policière. Le point de chute, c'est la résidence du coordonnateur du RASOPKA Tonga, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza et Félix Tshisekedi s'adressent à ces quelques militants.
Merci beaucoup pour tous ces efforts que vous avez consentis pour nous accueillir, mon épouse et moi, dans cette ville qui nous est très chère, malgré la répression brutale qui a commencé depuis quelques jours, ça il faut le dire. Il y a même des femmes qui ont été violées parmi celles qui ont été arrêtées à notre permanence. Il y a une maman qui saigne depuis lors. Élire de tels animaux à l'un des 4 sièges au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est quelque chose d'inacceptable parce que nous avons affaire à un régime barbare de gens qui ne connaissent pas ce que sont les droits de l'homme. Le moindre petit rassemblement provoque un déploiement inconsidérable des éléments de la police. Pas du tout notre détermination à chasser Kabila et sa bande de voleurs. Ils préfèrent nos minerais, nos richesses, plutôt que nous, les êtres humains.
Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
4 membres de la rébellion des forces populaires du Burundi, FPD, dont 2 principaux leaders, ont été arrêtés samedi dans l'est de la Tanzanie. Il s'agit du général Jeremy Tirangyiga Biramana et du colonel Edouard Chimirimana, respectivement numéro 1 et numéro 2 de ce mouvement rebelle. Idriss Fall a joint le porte-parole des FPB, le colonel Adolphe Manirakiza.
Nos 2 leaders, en compagnie de 2 autres membres, ont été arrêtés dans le district d'Ongara samedi soir entre 21h et 22h. Les informations qui nous parviennent nous disent qu'ils auraient été arrêtés par les éléments de la police tanzanienne en compagnie des éléments burundais et qu'ils auraient été conduits au Burundi dans la province de Muyinga. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de traces de ces leaders, mais les informations qu'on a ne sont pas précises sur où exactement ils sont et quel est leur état. S'ils ont été arrêtés sur le territoire tanzanien et extradés au Burundi, c'est une violation grave des conventions internationales en rapport avec les réfugiés qui disent qu'on ne peut pas extrader un réfugié dans son pays.
C'était le colonel Adolphe Manirakiza, porte-parole des forces populaires du Burundi. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, est arrivée aujourd'hui en Éthiopie, première étape de son voyage en Afrique, son premier voyage. Il s'agit d'une tournée qui l'amènera ensuite au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo, où sa visite est très attendue. Les précisions de Jacques Aristide.
Ce périple africain de Nikki Haley était une promesse du président américain en septembre dernier. Donald Trump se disait profondément préoccupé par les millions de vies en danger en RDC et au Soudan du Sud. Outre des entretiens avec les autorités des pays visités, des responsables de l'Union africaine et des représentants de l'ONU, l'ambassadrice américaine a prévu de rencontrer des hommes, femmes et enfants qui bénéficient sur le terrain de la protection et du soutien des opérations de l'ONU. À l'égard de la RD Congo, où le président Joseph Kabila est toujours au pouvoir, en dépit d'un mandat expiré depuis fin 2016, les États-Unis se montrent de plus en plus critiques. Ils ont dénoncé l'élection récente de ce pays au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et à propos du Soudan du Sud, Nikki Haley a affirmé à l'ONU qu'une récente et nouvelle initiative de paix venue de pays de la région était la dernière chance pour les autorités de Djouba d'en finir avec la guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts. Sa tournée prendra fin samedi prochain.
Au Tchad, le directeur de publication d'un hebdomadaire a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Son inculpation fait suite à la publication d'un article sur une affaire de trafic présumé d'immatriculation d'un avion vers la Syrie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire américain à la défense, James Mattis, a affirmé que le dossier nucléaire nord-coréen sera au cœur de sa tournée asiatique cette semaine. Le président Donald Trump lui aussi prépare une tournée en Asie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Aux Philippines, où il doit rencontrer ses homologues d'Asie du Sud-Est, James Mattis va évoquer la crise régionale en matière de sécurité. Le secrétaire américain à la défense va aussi participer à une rencontre tripartite avec ses homologues japonais et sud-coréens avant de se rendre à Séoul pour un sommet annuel. Le président Donald Trump fera en novembre sa première tournée en Asie avec une escale remarquée en Corée du Sud. Dimanche, il a réaffirmé que les États-Unis sont préparés à toute éventualité face à la Corée du Nord. Les 10 ministres de la Défense de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, ont exhorté Pyongyang à respecter ses obligations. Les Nations Unies ont appelé la Corée du Nord à renoncer à ses programmes balistiques et nucléaires. Les tensions sont montées d'un cran dans la péninsule coréenne depuis que Pyongyang a réalisé un 6e essai nucléaire et 2 tirs de missiles. Le climat s'est dégradé avec les déclarations belliqueuses entre Donald Trump et Kim Jong-un.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est attendu, lui, à Bagdad pour y rencontrer le premier ministre irakien Haider al-Abadi. Cette rencontre interviendra alors que le cabinet du premier ministre irakien a vivement répondu à des déclarations de M. Tillerson qui appelait au départ des milices iraniennes, selon ses termes. Le cabinet du premier ministre irakien a affirmé que les unités paramilitaires du Hach al-Shaabi étaient composées uniquement d'Irakiens placés sous son contrôle. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme en Syrie. Plus de 1100 enfants ont souffert ces trois derniers mois de malnutrition aiguë dans la région de la Ghouta orientale en Syrie. Cette région est tenue par les rebelles et assiégée par les troupes du régime. Dans cette région rurale située à l'est de Damas, où vivent près de 400 000 personnes, l'aide humanitaire ne parvient qu'au compte-gouttes en raison du siège imposé depuis 2013 par le régime de Bachar el-Assad. Des milliers de juifs ultra-orthodoxes ont de nouveau manifesté à Jérusalem contre le service militaire obligatoire. La protestation a donné lieu à des échauffourées avec les policiers, mais aussi avec des passants exaspérés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique sur le continent, c'est la Minute Éco présentée par Jacques Aristide.
Le ministre ivoirien des Transports appelle les compagnies aériennes africaines à baisser leurs tarifs jugés trop chers afin de participer à la croissance du secteur où la part du continent reste faible. Amadou Koné s'exprimait samedi à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens francophones qui regroupe 16 compagnies. D'après le ministre, il est moins cher d'aller d'Abidjan à Paris, quelle que soit la compagnie, que d'aller d'Abidjan à Dakar. En marge de cette rencontre, Air Côte d'Ivoire et son partenaire Air France ont signé un mémorandum pour permettre à Air Côte d'Ivoire de vendre des billets sur Paris tout en n'étant pas l'opérateur. La Banque africaine de développement annonce la création d'un fonds de 250 000 dollars pour les jeunes agriculteurs. Lauréat du prix mondial de l'alimentation, le président de la BAD, le Nigérian Akin Wumi Adesina, s'est engagé à consacrer la dotation financière qui accompagne le prix à la création de ce fonds. Sous Adesina, la BAD œuvre à l'accélération du développement agricole à travers sa stratégie Nourrir l'Afrique avec un investissement de 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Plus d'un milliard de personnes sans existence officielle, faute de preuves d'identité, pour la plupart en Afrique et en Asie, selon la Banque mondiale. Parmi ces personnes dites invisibles, plus d'un tiers sont des enfants dont la naissance n'a pas été enregistrée, comme en Somalie, au Libéria ou en Éthiopie. Du coup, des millions d'enfants d'Afrique sont privés de services de santé et d'éducation. Diverses organisations tentent de combattre ce fléau en utilisant notamment les nouvelles technologies.
La page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Meilleur joueur FIFA de la saison dernière, Ronaldo est favori.
Et oui, la FIFA qui va dévoiler ce soir à Londres ses prix des meilleurs joueurs, entraîneurs et buts de l'année. Une récompense pour le meilleur joueur sans doute attribuée à la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo face à Messi et Neymar. CR7 a poursuivi son insatiable moisson de titres la saison dernière. Il a remporté à nouveau la Ligue des Champions, la 12e de l'histoire du Real. Il a enlevé le très relevé championnat d'Espagne. On se rappelle qu'en finale de la Ligue des Champions, Ronaldo s'est offert le doublé contre la Juventus Turin. Il a également fini meilleur buteur du tournoi juste devant Lionel Messi. Il peut donc légitimement rafler ce titre ainsi que le prochain Ballon d'Or. Pour désigner le meilleur joueur de l'année, on rappelle que le système d'attribution est composé d'un panel de votants avec des sélectionneurs, des capitaines d'équipe nationale, des journalistes et des fans.
Et Zidane, favori pour le titre de meilleur entraîneur.
Oui, l'entraîneur du Real Madrid a de très fortes chances de décrocher le prix du meilleur entraîneur. Il avait terminé en deuxième position l'année dernière derrière Claudio Ranieri. Zidane, qui a fêté ce week-end son 100e match sur le banc du Real, a fait de l'équipe merengue une machine à gagner les trophées depuis sa nomination en janvier 2016. Tenez-vous bien, deux Ligues des Champions d'affilée, une Liga, un Mondial des clubs, deux Supercoupes d'Europe et une Supercoupe d'Espagne, soit 7 titres en moins de 2 ans.
Everton se sépare de son entraîneur.
Après une première saison prometteuse, l'entraîneur Ronald Koeman a été remercié par Everton au lendemain de la gifle 5-2 infligée à domicile par Arsenal. Le technicien néerlandais de 54 ans, on se rappelle, avait conduit le club à la 7e place la saison dernière, ce qui lui avait permis de retrouver l'Europe.
NBA, le championnat de basket nord-américain à présent.
Minnesota a infligé à l'un des prétendants au titre Oklahoma City sa deuxième défaite en 3 matchs, 113-115. Dans la conférence Ouest toujours, les Lakers de Los Angeles se sont inclinés pour la deuxième fois à domicile au Staples Center. C'est la Nouvelle-Orléans qui l'emporte 119 à 112. Autre résultat, la victoire de Brooklyn contre Atlanta 116 à 104. Enfin, on mentionne que Phoenix a limogé son entraîneur après 3 défaites et autant de matchs en NBA. C'est du jamais vu, jamais une équipe NBA ne s'était séparée de son entraîneur aussitôt dans la saison.
Merci Nicolas. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Nikki Haley, la représentante des États-Unis à l'ONU, effectue une tournée en Afrique. Elle se rend d'abord en Éthiopie, qui abrite le siège de l'Union africaine, puis au Soudan du Sud, le plus jeune pays au monde ravagé par la guerre. Elle terminera sa visite en République démocratique du Congo, qui traverse une crise politique aiguë et de conflits dans plusieurs provinces. Pour un éclairage, et qui à Badou a joint Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines.
Le président Trump a bien reconnu qu'il y a des crises. Je crois qu'il a utilisé le mot « crise » dans certains pays. Et Mme Haley connaît bien l'Afrique déjà parce que depuis son arrivée à l'ONU, elle a traité beaucoup de problèmes africains. Donc je crois que c'est une très bonne chose.
Alors, est-ce qu'on peut parler de politique africaine de Donald Trump?
Oh, c'est un peu tôt. Il n'a pas fait des déclarations. Il n'a pas parlé de l'Afrique dans ses discours. Mais je crois qu'à mon avis, je crois qu'il a continué la politique d'Obama. C'est-à-dire, nous n'avons pas des problèmes stratégiques en Afrique. C'est surtout voir les Africains avancer dans le développement économique. Et quand il y a des crises qui empêchent ça, peut-être nous pouvons contribuer. Je crois que, et aussi certains programmes d'Obama comme Power Africa, avancer l'électricité en Afrique, Feed the Future, c'est-à-dire amener la technologie pour l'agriculture, il va continuer ces programmes. Donc je crois que c'est la continuation d'Obama jusqu'à maintenant.
Pourquoi, selon vous, nous n'avons pas encore connaissance d'un nouveau nom, d'un nouveau secrétaire d'État aux affaires africaines?
Président Trump a bien nommé quelqu'un, c'est le Dr. Peter Pham, qui est un des grands experts sur les affaires africaines partout aux États-Unis. Il dirige un programme dans l'Atlantic Council. C'est une organisation qui suit la politique étrangère des États-Unis. Sa nomination est bloquée par un sénateur à cause du problème de Sahara oriental. Il fait un peu de chantage parce qu'il est contre la politique américaine. C'est le sénateur Inhofe de Oklahoma. Comme ça va durer un peu, président Trump a nommé un intérim. C'est l'ambassadeur Donald Yamamoto, qui a longue expérience en Afrique. Il était ambassadeur en Éthiopie. Il était dans beaucoup d'ambassades des États-Unis. Je crois que pour le moment, le bureau africain du département d'État est en bonne main.
C'était Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Retour ce soir sur les 13 gendarmes tués samedi dans le sud-ouest du Niger. L'attaque a visé la brigade de gendarmerie d'Ayoro dans la région de Tillaberi, près de la frontière avec le Mali. Comme pour l'embuscade du 4 octobre dans la même région, cette attaque n'a pas été revendiquée. Bagassi Koura a joint à Niamey Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement et spécialiste des questions de terrorisme.
Ce sont des assaillants qui sont venus du Mali voisin, qui ont attaqué pour une seconde fois la brigade de gendarmerie d'Ayoro.
Alors, vous dites une seconde fois, hein, parce qu'il y a déjà eu une attaque en mai contre cette même gendarmerie.
Absolument. Mais en dernier, il y a eu une attaque où les mêmes éléments, sont venus récupérer du matériel, des véhicules et des armes. Et c'est avec ces mêmes armes, apparemment, qu'ils sont revenus pour perpétrer cette nouvelle attaque.
Et ce qui donc laisse croire que des mesures n'ont pas été prises pour parer à toute éventualité.
Absolument. Apparemment, il y a une défaillance dans le système. Donc, comment se fait-il que des éléments qui ont attaqué il y a au moins 3 mois de cela une brigade et que des mesures ne soient pas prises pour vraiment les anéantir quand ils reviendront. Mais ce qui est sûr, ici au Niger, des mesures sont en train d'être prises. Les autorités vont revoir leur stratégie de défense de ces unités qui sont le long de la frontière malienne.
Ce qui est encore plus troublant, c'est que c'est dans cette région de Tillabéri où il y a eu déjà une attaque le 4 octobre où 8 soldats américains et nigériens ont été tués.
Écoutez, il y a des hommes, il y a des éléments qui sont le long de cette frontière et un dispositif qui a été mis en place, mais apparemment qui n'est pas réactif.
Est-ce qu'on est parvenu à faire le lien entre les assaillants qui ont perpétré cette dernière attaque et l'attaque de Tongo Tongo le 4 octobre qui a visé notamment des soldats américains et nigériens?
Non, il n'y a pas eu, on a écouté un peu par-ci, par-là les autorités qui n'ont pas fait de lien entre les attaques, mais nous, selon notre analyse, ce sont des éléments qui viennent du Mali, qui connaissent parfaitement le terrain, qui ont des complices au sein de ces populations-là, parce que les renseignements ont failli.
Que ce soit l'attaque du 4 octobre ou celle de ce samedi, il n'y a pas eu de revendication.
Il n'y a pas eu de revendication comme plusieurs autres, des dizaines d'autres attaques qu'il y a eu dans cette zone-là. On parle d'une quarantaine d'attaques qui n'ont pas été revendiquées. Mais le mode opératoire semble être celui de Adnan El-Sahraoui qui essaie d'occuper toute cette zone-là en essayant d'adoctriner les communautés qui ont des problèmes, comme je le disais tantôt, de gouvernance et surtout de pauvreté.
C'était le journaliste Moussa Aksar, joint à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place des mesures d'urgence après la découverte de la peste porcine dans le nord du pays. Une épidémie aux conséquences néfastes pour l'économie locale à cause notamment de la psychose des consommateurs. Reportage Narita Namasté.
Nous sommes dans le restaurant de Jean à Cocody, réputé pour sa spécialité dans ses menus faits à base de viande de porc. L'ambiance n'est pas pareille comme d'habitude. Chez Jean affiche moins de monde. Une situation consécutive à la découverte d'un foyer de peste dans le nord de la Côte d'Ivoire, où plus de 3000 bêtes sont déjà mortes du virus de la peste porcine africaine.
Nous, de toutes les façons, nos bêtes sont vérifiées, certifiées. Voilà. Donc, avant d'abattre, bien sûr, il y a le vétérinaire qui fait les soins, tout et tout. Donc, sans problème. Voilà.
La psychose et la peste porcine gagnent du terrain dans la capitale économique ivoirienne. Malgré le message des autorités qui rassurent que les autres régions du pays ne sont pas affectées par cette épidémie. En attendant de clarifier les choses, les commerçants, eux, enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires.
À vrai dire, ça a baissé parce que parfois nous venons avec une certaine quantité de morceaux qui finissent à une certaine heure, voilà, et qui n'est pas le cas ces 2 jours-là.
Une nouvelle qui se propage très rapidement, mais d'autres, malgré tout, préfèrent ne pas abandonner leurs habitudes alimentaires, comme c'est le cas des Léon Cassi.
En tout cas, manger la viande de porc, si ça doit me coûter un peu de grippe porcine, ça vaut le coup. C'est doux, c'est bon, je suis rassasié, je suis content. Bon, une petite maladie à côté, on doit forcément mourir de quelque chose.
Comme Pierre, certains n'avaient pas l'information. Ce qui justifie sa présence dans ce restaurant en train de consommer du porc, appelé ici viande de gabichou.
Et donc là, avant de discuter avec vous, j'étais pas au courant qu'il y avait apparemment une crise. J'étais pas au courant. Écoutez, en tout cas, ce que j'ai mangé ce soir, c'était très très bon. Et je découvre ça en venant de France.
Des mesures exceptionnelles ont été prises par les autorités ivoiriennes dans la région touchée par cette épidémie. Les acteurs de cette filière essaient de rassurer les éleveurs et aussi les consommateurs gagnés par la psychose.
Hier, à partir de 6 heures, moi-même, j'ai commencé à recevoir des coups de fil concernant les éleveurs que nous suivons. Vraiment, ça a été un boom parce qu'on ne s'attendait pas à telle nouvelle dit que la Côte d'Ivoire est menacée de peste porcine. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est seulement qu'une ville, un département qui est concerné. Et donc, nous, on a essayé de rassurer nos éleveurs pour montrer qu'il n'y a pas de mort au niveau d'Abidjan. Même à Korogo, il n'y a pas de mort. Et donc, à plus forte raison, Abidjan. Et donc, nous rassurons nos éleveurs, surtout les commerçants, qui aujourd'hui, on a reçu certains qui ont eu une baisse de chiffre d'affaires.
La Côte d'Ivoire compte plus de 50 000 éleveurs de porcs. En 1996, l'épidémie de la peste porcine avait touché les interdits cheptels porcines du pays et occasionné l'abattage de plus de 150 000 bêtes. Les consommateurs de la viande des gabichos s'en souviennent sûrement et préfèrent rester sur leur garde. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Depuis quelques mois, un citoyen béninois dénonce la gestion des morgues qualifiées de véritables mafias dans son pays. Des problèmes liés à la salubrité sont notés et certaines morgues sont gérées dans l'illégalité, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Les morgues qui jouissent d'une bonne salubrité peuvent se compter du bout des doigts. Même celle du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou est dans un état d'insalubrité avancée. Le sujet laisse insensible plus d'un. Personne ne veut fourrer son nez dans un commerce qui nourrit bien de familles. C'est dans la plus grande discrétion que nous avons fait le tour de quelques morgues avec tous les risques que cela comporte. Certaines ont même opté pour des corps séchés au soleil en lieu et place des normes établies. Dans une morgue située à quelques kilomètres de Cotonou, le morguier principal s'est lancé dans un discours qui montre qu'il désapprouve la situation.
Venez voir les conditions dans lesquelles j'ai mis les corps. C'est une véritable catastrophe.
Regardez le bas, déjà l'hygiène du bas. Le corps qui est dans l'eau, trempé.
Mais les corps qui sont dans l'eau, sont plus de sang.
Toi, regarde à ta gauche.
Il y a un bout de lumière.
C'est des stocks de sardines. Il n'est plus des corps.
Au Bénin, les morgues prennent l'allure de maisons ou de poissonneries abandonnées auxquelles on a donné quelques touches d'humanité pour accueillir les morts. Mais là où le bas blesse, c'est l'insalubrité qui règne. Dans ces morgues, le manque d'équipement, de formol pouvant aider à la conservation des cadavres. Et le drame reste entier lorsque plus de 8 cadavres se retrouvent dans un seul casier. Meda Koudébi est celui qui tire depuis quelque temps sur la sonnette d'alarme.
La situation des morgues au Bénin, c'est toute une catastrophe et pratiquement rien n'a été respecté. Il n'y a pas de normes. Et comme le dit les documents, ils ont dit que tout se fait par jurisprudence. Pour vous donner un exemple très simple, et des morgues normalement qui sont légalement autorisées, voici dans quelles conditions les corps de nos parents défunts sont conservés, sans parler des usines de la morue humaine où les corps sont séchés au soleil.
Mais que pensent les Béninois sur la gestion des morgues? Silence radio. Les menaces que reçoivent Meda Koudébi et la séquestration dont ont été victimes. Certains membres de sa famille contraignent les populations à se taire et à laisser le mal ronger le secteur. Cet agent des services d'hygiène qui a préféré rester dans l'anonymat explique que le drame des morgues au Bénin se joue avec la complicité des politiques pour la plupart propriétaire de ces lieux.
Personne ne veut collaborer avec les morts. Personne ne veut savoir dans quelles conditions ils vivent. Et aujourd'hui, je mets au défi tous les chefs d'État béninois. Je veux qu'un seul président béninois puisse me dire que volontairement il s'est levé un matin et il a décidé de visiter une morgue. Il ne faut pas qu'ils oublient que les gens, avant d'aller à la morgue, ont été des citoyens béninois, ont été membres de l'un ou l'autre des partis politiques qui ont voté pour eux pour qu'ils soient à ce niveau. Au moins par reconnaissance. Il y a même des responsables qui se sont mis en colère pour dire, vous êtes en train de vouloir toucher à notre porte-monnaie. Et sur ce plan, nos revenus, on ne va pas vous pardonner.
Aborder le sujet lié au scandale des morgues vous offre en partie à ceux qui y trouvent leur compte. Car en dehors de l'insalubrité et de l'effectif pléthorique, il y a malheureusement le trafic d'organes de mort et de ceux qui, dans le secteur, annoncent jus de morgue et qui permet à certains de faire des rituels de prospérité et de protection. Il y a quelques mois, l'État a ordonné le désengorgement de certaines morgues avec près de 1000 corps non réclamés enterrés dans une fosse commune. Mais cela ne règle pas encore le problème qui exige une volonté politique et un peu d'humanisme. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph, la console Bill Barber, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Mmh.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.